build and never grow and never know. You can never know.
Présence, 10h.
Qu'un et à chacune de tous nos auditeurs. Bonjour à tous, heureuse et sainte année à tous. Ce matin dans l'actualité, pour l'occasion, Big Ben a sonné, le Brexit commence pour le Royaume-Uni. À 23h, heure locale, il est sorti du marché commun après 47 ans d'une intégration souvent compliquée au sein de l'Union européenne. C'est un moment incroyable, nous avons notre liberté entre les mains et il nous revient d'en tirer le meilleur parti. C'est félicité Boris Johnson dans ses vœux. Dans les siens, Emmanuel Macron a rassuré que le Royaume-Uni demeure notre voisin, mais aussi notre ami et notre allié. Comme il est de coutume, Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français pour la nouvelle année et donné ses priorités pour 2021. La transition écologique, la lutte pour la laïcité, l'égalité des chances et la lutte contre toutes les inégalités et les discriminations. Sans mentionner la réforme des retraites, il a évoqué une nécessité de ne pas faire peser le coût de la crise sur les générations futures. Terminant son intervention, il a assuré que le printemps à venir sera le début d'un nouveau matin français, d'une renaissance européenne. Et la polémique continue sur la vaccination après que l'Académie nationale de médecine ait regretté son démarrage très lent et jugé les précautions prises excessives. Dans ses vœux, Emmanuel Macron a rappelé sa stratégie sur le vaccin.
Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions, encadrées par nos scientifiques et nos médecins, dans lesquelles la vaccination doit se faire. Et je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner de manière sûre et dans le bon ordre, en commençant par ceux qui présentent le plus de risques.
Dans une annonce surprise juste avant les vœux présidentiels, Olivier Véran a annoncé une accélération de la vaccination avec l'ouverture dès lundi aux soignants de plus de 50 ans qui ne devaient être vaccinés originellement avant fin janvier. Mais Emmanuel Macron a prévenu, les premiers mois de l'épidémie seront difficiles et au moins jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera encore beaucoup sur la vie de notre pays. La lutte contre la Covid-19 mise à l'honneur avec des remises de légions d'honneur. 63% des 3800 personnes décorées le sont pour leur investissement dans la lutte contre l'épidémie. La plupart œuvrant dans l'ombre, dévoile la grande chancellerie. Ils sont médecins, directeurs d'hôpitaux, responsables d'EHPAD, infirmières, pilotes d'hélicoptères ou encore chefs d'entreprise. Au Tchad, le Premier ministre Jean Castex a fêté le nouvel an avec nos troupes de Barkhane à N'Djamena. Sous la lune pleine et les drapeaux en berne, il a rendu hommage hier soir aux 3 militaires français tombés au Mali. Jean Castex a insisté sur la volonté intacte de la France de combattre le terrorisme au Sahel. Malgré les 47 militaires tombés au champ d'honneur depuis 2013, aucune réponse n'a été apportée sur l'avenir que prendra Barkhane dans le futur, alors que Paris veut adapter son dispositif.
Mesdames, Messieurs, la compagnie première classe vous souhaite la bienvenue à bord du vol 95140. Nous sommes heureux de partager ce voyage avec vous. De plus, nous informons nos passagers que durant ce vol, de multiples choix musicaux vous seront proposés.
Suivez le guide. Thierry Georges.
Rusgott, suivez le guide, est à Vienne. Bienvenue, Vienne en musique. Nous nous intéressons aux compositeurs qui sont nés ou qui ont vécu à Vienne. Nous serons dans l'ambiance des valses viennoises et de ce fameux concert du Nouvel An. Mais aujourd'hui, nous avons surtout rendez-vous avec les petits chanteurs de Vienne, les Wiener Sänger Knaben. Nous irons leur rendre visite dans le palais où ils vivent et répètent. Début également dans ce suivez le guide de notre conversation avec Dominique Meyer, le directeur de l'Opéra de Vienne. Vienne traversée par le Danube, qui fut la capitale du Saint-Empire romain germanique, de l'archiduché d'Autriche, de l'Empire d'Autriche et de la double monarchie, communément appelée Autriche-Hongrie. Nous débutons donc ce suivez le guide chez les petits chanteurs de Vienne. Nous sommes dans la Kastelgasse au numéro 25. Tina Breckhold nous accueille. Nous bavarderons avec elle, mais faisons tout de suite connaissance avec un petit chanteur qui parle français.
suis Michael, je suis partie des petits chanteurs de Vienne.
Donc si tu parles français, Michael, c'est parce que ta maman...
Elle vient de Belgique.
Elle vient de Belgique. Et ton papa ?
Lui, il vient de Vienne, ici.
Il est, voilà, autrichien de Vienne. Donc du coup, tu parles français, tu connais la Belgique ?
Oui, un petit peu.
Un petit peu. Mmh.
J'y vais une fois par an.
Dans quelle salle sommes-nous ici ?
Dans la salle de chorale du chœur de Mozart.
Ah oui, le chœur de Mozart.
On leur a donné des noms, des compositeurs autrichiens. On les a nommés d'après des compositeurs qui faisaient partie de notre histoire. Michael est dans la chorale dite Mozart.
Et les autres chœurs, c'est ?
Schubert. Qui était petit chanteur autrefois, et Haydn, aussi un autre petit chanteur, et Bruckner, qui jouait de l'orgue à la chapelle impériale.
Sinon, la relation à Mozart, c'est que les petits chanteurs de Vienne ont travaillé avec Mozart.
C'est juste.
Alors, quelle est la particularité du chœur de Mozart ?
Quand on a la seule femme qui nous guide, les autres sont tous des hommes.
Donc la chef de chœur, c'est ça, est une femme.
Oui.
Votre professeur, qui est juste à côté de nous.
Mmh. Oui.
Et c'est pour ça que tu as choisi le chœur de Mozart ?
Non, elle n'était pas encore là quand j'ai choisi le chœur de Mozart. J'ai choisi le chœur de Mozart parce qu'il avait beaucoup d'amis de moi qui y allaient, parce qu'on a des tournées, et puis s'il y a un autre chœur qui va là, et puis l'autre encore une autre fois, ils ne sont jamais ensemble, mmh. c'est pas tellement gay.
Parce que tout le monde ne part pas en tournée en même temps. Et alors c'est le chœur de Mozart qui va partir au Japon ?
Oui.
Donc tu vas partir au Japon ?
Oui.
Ce sera la première fois ?
Oui.
Ce sera un long séjour au Japon ? À quelques semaines ou mois de partir ? Enfin, tu as très envie ? Comment tu imagines ça ?
J'étais déjà parfois en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Quand même, on fait beaucoup de trucs. Regarder les villes et comme ça, New York. Ouais. Et
donc
comme ça,
découvrir.
C'est gay, oui.
Plus les concerts.
Oui, quand même beaucoup de concerts aussi.
Tu fais partie des petits chanteurs de Vienne. Alors, tu as quel âge ?
Maintenant, je suis 11.
11 ans.
Presque 12. Je suis venue dans la deuxième année de l'école primaire, oui.
Et on peut être petit chanteur de Vienne jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est ça ?
Oui.
Et c'était ton idée à toi ?
Oui, il a ma professeur qui disait que je chante très très bien. Il a déjà mon frère qui voulait essayer, mais ça ne lui a pas plu tellement. Et puis moi, je voulais aussi essayer et maman, ça m'a très plu.
Quand on entre ici à l'école, on n'est pas sûr après de faire partie des petits chanteurs. Est-ce que tous les élèves vont faire partie des différents chœurs et se produire sur scène ?
Il n'a pas de filles ici. Il est dans l'école primaire, il a encore des filles. Mais après, ils doivent partir. On ne doit pas aller dans le gymnasium si on ne veut pas rester dans l'internat et comme ça.
Mais toi, tu avais envie d'être interne ?
J'aime pas trop être interne, mais j'aime bien chanter.
Alors en plus, tu es l'un des solistes des petits chanteurs.
Oui.
Tout le monde peut être soliste ?
Peut être soliste si ça se fait. Et les voix au niveau des enfants, ça change beaucoup. Et très vite, il faut le faire quand on le peut.
Il ne faut pas laisser passer, alors. Le soliste, c'est un peu la vedette du chœur ?
Oui.
Ça veut dire que tu signes des autographes ?
Parfois, pas tellement souvent.
Mais quand même, au Japon, tu vas être une célébrité au Japon ?
Je crois.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes dans la partie soliste, quand c'est vraiment un moment où ta voix se détache des autres et tout le public en concert, les yeux braqués sur toi ?
Moi, en fait, je chante pas sur les gens, mais plutôt derrière de la salle. Je regarde pas directement les gens. Moi, j'aime très bien chanter soliste. Je me sens toujours tellement bien de chanter. Quand je chante plus longtemps pas, il y a la joie qui part.
C'est un vrai bonheur de chanter.
Oui.
Tu as déjà réfléchi comment tu envisages après, puisque c'est jusqu'à 14 ans, hein, petit chanteur de Vienne, après ça ?
Ça, je ne sais pas
c'est
encore.
C'est un peu tôt encore. Hein. Ouais. Mais tu vas continuer à travailler le chant, la musique ?
Je voudrais, oui.
Qu'est-ce que tu aimes chanter ?
J'aime chanter des chansons comme ça, plutôt mélodieuses. J'aime pas trop le rock. Que chanter, j'aime la messe, j'aime les tout ce qui est comme baroque et classique.
Donc la messe, tu participes chaque dimanche à la messe?
Mais le plus souvent, c'est chaque deux semaines.
Ah, tous les 15 jours? Donc cette messe dans la chapelle royale, le dimanche matin?
Oui.
Et chanter un programme religieux, est-ce que c'est différent pour toi de la musique religieuse?
Pour moi, tous les messes ont le même texte.
La mélodie change, mais le texte est le même, c'est ça? Et tu le connais?
Oui.
Est-ce que tu es croyant?
Oui. Je crois en Dieu et mon père était prêtre, mais je ne vais pas dans religion, dans l'école, parce que de toute façon, mon père me dit tout, alors j'ai un petit peu de temps libre.
Il y a beaucoup de travail, tu dirais, quand on est petit chanteur de Vienne, formation?
Oui, quand même. Moi, je fais plus de travail que les autres.
Il y a les cours traditionnels en plus, de toute façon. En plus de la musique, il y a toutes les matières, maths, etc.
Nous, on n'a pas les semestres, comme les autres écoles. L'année scolaire est divisée en trois. Il y a trois parties. Et une partie, on passe en tournée. Et les autres parties sont l'école normale, comme ailleurs. Mais ici,
il y a quand même un programme scolaire à boucler.
C'est le même programme. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, c'est on a des classes toutes petites et c'est plutôt facile pour les profs de savoir ce que chaque élève fait et le niveau que chacun a.
C'est presque personnalisé?
Oui, c'est ça.
Maintenant 18h45, quand on bavarde, quelle va être la suite de la soirée?
Ah ben, peut-être je vais aller jouer au football, alors je lis un livre, je sais pas, peut-être Madame Kim veut encore...
Madame Kim, c'est le professeur, hein?
Oui, elle veut encore faire une chanson avec moi, ou... Mm-hmm. Je sais pas, qu'est-ce qu'on veut faire.
Tout te va?
Ouais. Oui.
Et ensuite, il y a le dîner encore?
Non, j'ai déjà mangé.
Ah, ça y est. Mm-hmm. Et après, à quelle heure l'extinction? Vous êtes combien par chambre, par exemple?
Trois.
Trois par chambre. L'extinction des lumières, c'est à quelle heure?
À 9h, il faut être dans la chambre. Et à 9h15, on éteint la lumière.
Et le matin, le réveil, c'est à quelle heure?
7h moins quart.
Et tu rentres voir tes parents?
Samedi à 11h.
Chaque week-end?
Oui.
Et tu reviens parfois pour chanter la messe le dimanche matin?
Oui.
Tu es heureux?
Oui.
Alors les t-shirts Hard Rock Café, là, Barcelone, Séoul, Osaka, sont des souvenirs de tournée?
Oui, c'est notre vieux professeur de chant qui l'a acheté pour le mettre ici.
Ah oui, c'est ça. Où sont passés les petits chanteurs de Vienne?
Oui.
C'est aussi le pays de la famille Von Trapp. Je vois le CD là, de Sound of Music. Vous travaillez ça?
Oh oui, au Japon, on va faire un petit peu de musique de ce film.
C'est aussi une histoire de petit chanteur comme toi, mais dans une famille. Tes parents chantent aussi?
Non, mon père joue très bien le piano et mon grand-père. Et il était aussi petit chanteur de Vienne. Il a dirigé un orchestre.
Ah oui, grand-père petit chanteur de Vienne. C'était prédestiné que tu sois aussi petit chanteur de Vienne.
Gleiche Position bleiben, nicht? Requiem. Du, na, es ist schwer. Ja, direkt. Requiem. Und. Requiem. Oben bleiben. Oh.
Madame Kim, le professeur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prof ici pour les petits chanteurs de Vienne? Alors, je peux tout seul déjà en déduire, puisque vous êtes une femme, donc vous n'avez pas été vous-même petit chanteur de Vienne. Je crois qu'on accueille les filles maintenant. C'est assez nouveau, non?
Non.
C'est pas nouveau?
C'est un peu difficile à expliquer, mais au niveau de l'école primaire, on a eu des filles depuis 1941. Et puis maintenant, on les a aussi au niveau de la high school.
Mais elles ne peuvent pas chanter dans la chorale?
Non, pas dans la chorale des petits chanteurs, parce que ça, c'est une chorale de garçons. Oui, et ça restera comme ça. Il y a des bonnes raisons pour ça. Une raison, c'est que les filles muent aussi comme les garçons, et il faut faire très attention à la voix, surtout si l'on veut chanter en tant que profession. Et on va faire une chorale uniquement pour les filles aussi. Mais c'est pas bien de mélanger les deux entre 10 ans et 14 ans, pour les garçons aussi, parce que les garçons, en ce moment, s'il y a des filles, ça devient une chose pas masculine, si vous comprenez. Quand il y a une fille dans la chorale, les garçons disent non, c'est pas pour moi, on va finir par plus de garçons dans les chorales, et ça sera très dommage. Donc, entre 10 ans et 14 ans, ça vaut mieux de les séparer.
Guide à Vienne, chez les Petits Chanteurs de Vienne, un extrait de la Mélodie du Bonheur, travaillé et interprété par les Petits Chanteurs de Vienne, qui se présentent toujours en costume marin depuis 1924, c'est leur uniforme officiel, bleu quand ils sont en voyage ou à l'occasion d'un concert dans une église par exemple, blanc lors des concerts de gala. Continuons avec Tina Breckhold et Madame Kim, la prof, a évoqué ces Petits Chanteurs de Vienne. Madame Kim n'a pas été petit chanteur de Vienne, mais pourquoi avoir envie de devenir professeur des petits chanteurs?
Ja, das sieht man ja. Ich bin ja eine Frau und aus.
Je suis une femme, évidemment. Je viens du Corée.
Ich habe immer gern gesungen, und zwar im Chor.
J'ai toujours aimé le chanter.
Seit meiner Grundschulzeit habe ich immer im Chor
Depuis
gesungen.
Depuis que j'étais toute petite, j'ai chanté dans une chorale.
Und mit 8 habe ich angefangen Klavier zu spielen.
Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé le piano.
Dann ganz natürlich in der Kirche habe ich dann Orgel begleitet, Chor begleitet.
Et tout naturellement, j'ai commencé à jouer l'orgue à l'église.
Chor war immer mein zweites Zuhause.
Mais la chorale pour moi, c'était toujours, je me sentais à la maison.
Nach dem Abitur habe ich dann in Korea Chorleitung studiert und wollte weiter Kirchenmusik und vor allem Chorleitung weiter studieren und habe ich in Deutschland Chorleitung studiert und hier in Wien habe ich Kirchenmusik und Chorleitung studiert.
Après mon bac, j'ai commencé à faire mes études en tant que maître de chorale au Corée. Pour terminer, je suis allée en Allemagne faire les mêmes choses et j'ai terminé mes études à Vienne en tant que maître de chorale et chef d'orchestre.
Ich liebe die Arbeit mit Menschen, was gemeinsam zu tun.
J'aime travailler avec des gens, j'aime faire des choses ensemble.
Vor allem mit Musik und mit den Kindern was gemeinsam was zu machen, das ist für mich ein idealer Job.
C'est comme un rêve pour moi, faire des choses ensemble avec des enfants, arriver à faire de l'art avec des garçons ou des enfants.
Êtes-vous la première femme prof ici pour les petits chanteurs de Vienne?
Es gab einmal eine künstlerische Leiterin.
Il y avait la directrice de toutes les quatre chorales. C'était une femme entre 1996 à 2000, je crois. Il y avait une femme, Agnes Grossmann. Elle est viennoise, mais elle habite au Canada. Pour 3 ans, elle était la chef de toutes les quatre chorales. Mais en tant que maître de chapelle, Madame Kim est la première.
Comment qualifieriez-vous l'ambiance, enfin, de travail, de tout, ici, au sein des petits chanteurs de Vienne?
Oh, sehr gut, sehr gut.
J'aime beaucoup.
Die Arbeit macht mir Spaß und jeden Tag mit den Buben, 2 Stunden proben und...
J'aime beaucoup le travail, j'aime beaucoup la répétition.
Manchmal nicht ganz...
Ce n'est pas toujours évident.
Ruhig,
c'est pas toujours. Ce sont des garçons, donc c'est pas toujours.
Sehr, sehr spaß.
Ils sont pas toujours très silencieux, mais c'est, ça, ça vaut la peine et moi j'adore.
Dankeschön.
Bitte.
Les petits chanteurs de Vienne existent depuis quelques siècles déjà. Alors moi j'ai noté, vous allez me dire, vous connaissez bien l'histoire des petits chanteurs de Vienne, 1498, ça veut dire quand même depuis très longtemps. Hein.
C'est juste. C'était la chapelle de l'empereur Maximilien Ier. Les petits chanteurs étaient là avant ça, mais ça c'est une bonne année pour les histoires.
Ils sont dans ces locaux depuis longtemps. Enfin, bon, il y a une partie qui n'est pas très ancienne, mais il y a une partie plus ancienne. Le bâtiment existe ici depuis...
Le bâtiment ici, 1698.
Ouais, mais il y a toujours eu les petits chanteurs là depuis...
Non,
ils ont voyagé dans
le bâtiment a été battu pour un marchand qui avait évidemment beaucoup d'argent. À ce temps-là, les petits chanteurs faisaient partie de la cour impériale. On n'avait pas besoin d'un bâtiment comme...
Ah oui, c'est vrai, ils étaient à la cour.
Oui, ouais. Voilà, c'est ça. Ici, ce bâtiment, on l'a obtenu avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale et les petits chanteurs ont payé pour les réparations. Et depuis 1948, on habite ici.
Ouais. Alors c'est incroyable de se dire les petits chanteurs de Vienne ont travaillé avec Mozart. Il n'était pas petit chanteur lui-même. Mais dans l'histoire des petits chanteurs, ils ont travaillé avec des musiciens comme Mozart, avec Salieri et Schubert. Franz Schubert a fait partie des petits chanteurs. Hein.
On a eu de la chance parce que la cour viennoise a toujours été attrayante pour des musiciens de bonne qualité. Donc on en a profité.
Les petits chanteurs sont très populaires à Vienne, en Autriche.
Oui, on est populaire en Autriche, mais je crois qu'on est plutôt populaire à l'étranger, plutôt aux États-Unis et bien au Japon. Les petits chanteurs font des tournées depuis 1926 et puis on fait beaucoup de tournées, donc on est très visible autour du monde et c'est pour ça que je crois qu'on est très connu à l'étranger.
Alors comment s'organisent les petits chanteurs de Vienne? Il y a à peu près 250 enfants ici qui sont pensionnaires, ils sont tous pensionnaires en internat?
Non, pas du
tous.
Tout. Pas tous. On a 100 garçons dans les quatre chorales qui font les tournées et les 100 garçons sont à l'internat. Plus une trentaine de garçons qui, comment dit-on, ils essayent de devenir des petits chanteurs et nous, on les a à l'internat pour voir si ça se passe, s'ils se sentent bien. Parce que la chose la plus importante, à partir de qu'ils ont une envie de chanter, c'est qu'ils se sentent bien ici.
Alors, il y a des filles aussi?
Pas dans l'internat.
Pas dans l'internat.
Il y a des filles à l'école primaire. Et on a une high school pour des filles et des garçons à partir de 15 ans jusqu'au bac.
Donc, bon, on a des filles. De toute façon, après... L'âge, puisque les petits chanteurs de Vienne, c'est de 10 à 14 ans, donc on est de toute façon au-delà.
Présence.
De passage à Lourdes.
De passage à Lourdes.
Chaque semaine dans l'émission de Passage à Lourdes, je rencontre une femme ou un homme que la foi a conduit au sanctuaire de Lourdes. De tous les coins de France, de tous les états de vie, au terme d'itinéraires parfois incroyables, leur témoignage nous communique la force de la foi.
De Passage à Lourdes, avec Mathias Terrier, tous les mardis à 16h.
Suivez le guide.
Thierry Georges. Suivez le guide est à Vienne. Nous écoutons les petits chanteurs de Vienne, Wiener Sänger Knaben, que nous découvrons chez eux au palais Augarten, la résidence des petits chanteurs à Vienne, suite de cette conversation avec Tina Breckhold, qui fait partie de l'encadrement des petits chanteurs. Les jeunes qui arrivent ici, donc il y en a plus, il y en a davantage que de petits chanteurs. Tous ne deviendront pas petits chanteurs. Si on prend les garçons, bon, ils peuvent arriver à quel âge ici? Vers 7 ans, 8 ans?
On peut arriver ici au niveau de l'école maternelle.
Ah, déjà l'école maternelle?
On l'a eu pour 20 ans, je crois. Et ça, c'est très 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 bien parce qu'il faut travailler avec des enfants très jeunes.
L'école maternelle?
Oui, ouais. Absolument. On les observe et si ça leur fait plaisir, et si c'est la bonne choix pour eux, on les a à l'école primaire. On a 4 ans pour observer si ça, c'est la bonne route pour un enfant, et si nous le pensons, on les prend dans la chorale. Mais tous les garçons qui sont ici, entre 10 ans et 14 ans, tous les garçons font partie de la chorale.
Voilà, si on est là, entre 10 ans et 14 ans, on en fait partie. Ceux qui étaient plus jeunes, sont réorientés. S'ils n'entrent pas dans la chorale, ils vont aller dans une autre école après l'âge de 10 ans, c'est ça?
C'est ça.
Ouais. Donc ça permet d'observer, c'est un peu comme si les petits chanteurs de Vienne, enfin les organisateurs font le casting dans...
On peut dire que c'est un casting, mais je crois que c'est une décision qu'on prend avec les parents et avec l'enfant.
C'est aussi en fonction du désir de l'enfant.
Oui. Non, ça c'est la chose la plus importante.
Même si l'enfant chante très bien, et si vous ne sentez pas le désir, ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas du tout. Il n'y a pas de chance pour ça. Si l'enfant ne se sent pas bien, non, il ne faut pas le faire.
Alors, depuis Franz Schubert, y a-t-il d'autres petits chanteurs qui sont connus en Autriche, plus récemment?
Plus récemment, il y a des acteurs du théâtre ou bien du film. Il y a des gens qui sont venus des chefs d'orchestre. Il y a des gens qui jouent à l'orchestre philharmonique. Il y a des gens qui sont devenus des chanteurs. De l'opéra ou bien des messes. On a 25% de notre élève deviennent des musiciens professionnels.
Ah oui, donc un quart font vraiment...
Voilà.
Donc Michael, qui est soliste aujourd'hui, a une chance sur quatre. Enfin, on peut penser que...
Oui,
voilà,
oui, absolument. Et moi, je crois, dans le cas de Michael, il est très doué, très musical, mais il est aussi très modeste. Il est tout petit.
Oui,
vous l'avez vu, il est tout petit. Il a une détermination et ça, je crois, il a une très bonne chance à devenir un musicien professionnel.
On ne sait pas encore comment évoluera sa voix.
Non, pas du tout, c'est tôt. Ce que nous croyons, c'est qu'à travers le chant, c'est une très 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 bonne façon d'exprimer votre personnalité et de vraiment trouver la vraie voix à vous. C'est ça ce qu'on fait ici. On fait de la musique, oui, mais ça c'est une langue, c'est une expression, c'est une façon de trouver soi-même, quoi.
Ça coûte cher d'avoir leur enfant ici?
Non, vraiment pas. Ça coûte 900 euros par an.
Non, c'est pas cher.
Non, c'est pas cher du tout. Et s'il y a des gens
qui... Et plus les frais d'internat ou...
Non,
l'internat,
ça,
tout compris. Okay.
S'il en est petit chanteur, c'est... On chante et nous, on leur donne l'éducation, l'école, les tournées.
C'est une ouverture au monde, hein.
J'espère.
Oui. Alors, les petits chanteurs donnent un nombre important de concerts par an.
Combien?
Oui.
On a 4 chorales et les 4 chorales donnent 300 concerts par an. Ça veut dire 85 concerts par enfant.
Oui, c'est important. Parfois, les 4 chorales chantent ensemble?
Très, très, très rarement.
Très rarement.
Parce qu'on a beaucoup de tournées. C'est assez difficile à les avoir.
Il n'y a pas le concert à Vienne où on va rassembler tous les... Non.
Non, ça arrive très, très, très rarement. Moi, je suis ici depuis 15 ans. C'est arrivé une seule fois. pendant les 15 ans, une seule fois.
Donc c'est un grand privilège pour ceux qui y étaient.
Peut-être. C'était un concert qu'on a donné pour les victimes de Fukushima. C'était un geste de notre part pour les gens au Japon.
Alors écoutez, souhaitons qu'il n'y ait pas d'autres catastrophes pour rassembler.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Tina?
Oui, j'ai toujours chanté un petit peu, mais seulement en tant qu'amateur.
Ouais. Alors je précise, si on entend en arrière-plan des voix, alors ce ne sont pas des voix des petits chanteurs là, hein, ils sont un peu plus adultes là.
Oui, c'est juste. Ça, c'est une chorale de jeunes gens qui répètent avec un de nos chefs de chorale. Et c'est bien pour les garçons parce que les garçons l'écoutent. Il y a de la musique tout le temps. Il y a deux chorales d'anciennes petits chanteurs, des chorales d'hommes. Donc, ils répètent ici aussi. Comme je disais, il y a de la musique tout le temps.
Dans le bâtiment, on entend chanter tout le temps. Oui. Mais de toute façon, ça fait tellement partie de la vie et de la culture viennoise, non ? Et autrichienne, je ne sais pas, mais...
Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui chante ici, ou qui font de la musique.
Ou qui est intéressé par la musique, ou qui écoute. C'est un
pays
musicien.
Moi, je trouve que c'est un privilège d'être dans un bâtiment comme celui-ci. Il y a quelqu'un qui joue le piano, quelqu'un d'autre qui joue au violon. Il y a des petits chanteurs qui font une petite répétition pour eux, simplement des garçons. C'est un privilège d'être ici, et c'est bien si c'est comme ça.
Quand ils quittent à 14 ans, donc certains vont aller au lycée.
La moitié reste ici.
Mais leur vie de petits chanteurs s'arrête.
Oui, mais ça c'est normal.
Ils le
savent très 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 bien.
Il n'y a pas une cellule psychologique qui les accompagne. Enfin, je ne sais pas si c'est difficile à vivre ce moment-là.
Je crois que ce n'est pas tellement difficile parce que nous, on leur dit, ils vivent ça. C'est normal que ça change. Et ils le savent très, très, très bien. Et la plupart d'entre eux, je dirais qu'ils sont prêts à continuer leur vie, soit ici, au lycée, soit ailleurs. Ils sont partis pour d'autres choses. Les gens de notre lycée, les garçons et les filles entre 15 ans et 18 ans, ils donnent des concerts aussi, ils chantent aussi. On passe beaucoup de temps à traîner leur voix, à faire des choses avec eux. En ce moment, les élèves de la high school écrivent une opéra ensemble.
Donc ils savent,
font la musique.
Voilà. Donc ils savent qu'après leur vie de petits chanteurs, il y a une autre vie qui est tout aussi passionnante.
Voilà, il y a toujours la musique. Et on grandit, c'est tout.
Quittons les petits chanteurs de Vienne, nous quittons le palais Augarten pour nous rendre dans un autre bâtiment d'exception à Vienne, l'Opéra de Vienne, le Wiener Stadtoper, où nous attend son directeur, un Français, Dominique Meyer. L'Opéra de Vienne est le premier bâtiment sur ce qu'on appelle le Ring ici. En français, on dirait quoi ? On dirait le périphérique ?
Ah non.
Non, on dirait pas le périphérique.
Non, c'est
le boulevard circulaire.
C'est le grand boulevard, en fait. Non, périphérique, ça donne l'impression que c'est à l'extérieur de la ville.
C'est
mais le ring, c'est le cœur de la ville, en réalité. C'est l'artère sur laquelle se trouvent concentrés les bâtiments importants de Vienne, à l'exception d'un seul, qui est la cathédrale Saint-Stéphane. Ou Saint-Étienne, plus exactement. Stéphansdom, c'est Saint-Étienne. Mais en réalité, il y a sur le ring le Parlement, le Burgtheater, donc qui est l'équivalent de la Comédie-Française, la mairie, enfin un grand nombre d'édifices importants, le Musikverein qui est à côté, les grands hôtels.
Là où est donné ce fameux concert du Nouvel An.
Il faut préciser que Dominique Meyer est le premier français directeur de l'Opéra de Vienne.
Oui, le premier. Oui, ils se sont intéressés à voir un étranger. Je crois qu'en réalité, la nationalité leur importait peu. Ils voulaient un directeur expérimenté. Il se trouve que lorsque j'étais à Paris au Théâtre des Champs-Élysées, la visite régulière de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Il se trouve que cet orchestre, qui est très connu, qui est celui qui joue le concert du premier de l'an, le fameux, c'est aussi l'orchestre de l'opéra ici, car c'est le même orchestre qui joue à la fois des concerts symphoniques sous le nom de Philharmonique de Vienne et les opéras sous le nom d'Orchestre de l'Opéra de Vienne. Et ce sont les représentants de l'orchestre qui m'ont mis sur la voie. Je les connaissais bien, puisqu'ils venaient me visiter souvent. Et un jour, les deux délégués de l'orchestre au conseil de l'administration de l'opéra sont venus me dire que l'orchestre aimerait bien que je vienne diriger l'opéra ici.
Ah, donc vous avez été choisi par l'orchestre, vous n'avez pas postulé
Si, j'ai postulé, mais disons que le choix ici est fait par la ministre de la Culture, une femme, Mme Schmitt, qui est très très indépendante de caractère, mais je crois qu'elle a ouvert les candidatures à l'époque, et elle a consulté naturellement les principaux responsables culturels de la ville et l'orchestre aussi.
Votre candidature et votre arrivée a été programmée plusieurs années à l'avance. Vous le saviez déjà plusieurs années avant de rejoindre Vienne.
Oui, 3 ans avant, ce qui est évidemment en théorie une longue période, mais en fait pas tellement, puisque c'est évidemment le minimum de ce dont on a besoin pour préparer un programme dans notre métier.
Ce qui fait que dès votre arrivée, c'était déjà votre saison, c'était déjà votre première saison.
Oui, la saison 2010-2011 qui était ma première saison, je l'ai préparée du 3 septembre au 30 juin.
Et ça s'est très bien passé, à tel point qu'on vous a décerné le titre de l'homme culturel de l'année.
Oui, on a surtout prolongé mon contrat.
Ça aussi.
ça c'était bien, parce que dans notre métier, il n'est pas fréquent qu'on reconduise un directeur aussi vite, et on m'a reconduit pour 5 nouvelles années, à peine 15 mois après mon début ici. Et donc j'ai un contrat jusqu'en 2020.
Jusqu'en 2020, Dominique.
Oui, ce qui est magnifique, parce que ça permet vraiment de programmer à l'avance. C'est une autoroute.
Depuis votre arrivée à l'Opéra de Vienne, vous avez remis à l'honneur le ballet, par exemple. Il fallait, je ne sais pas, dépoussiérer, je ne sais pas si on peut dire dépoussiérer.
Non, j'aime pas dire ça, non, parce que je trouve ça arrogant, mais évidemment, on vient avec un concept dans un lieu comme celui-là. Moi, je ne suis pas partisan des réformes brutales, car ce sont des gros paquebots, on ne peut pas les guider brutalement, ce serait très dangereux, il faut avoir du respect pour eux.
Ça passe mal parfois, les réformes brutales. Hein.
Donc j'ai préféré opérer par petites touches. On fait 2 ou 3 choses. La première, c'était au fond d'essayer de moderniser le système de répertoire. Système de répertoire, c'est le système qui est en vigueur dans les pays germaniques, par opposition au système de stagione qu'on trouve dans l'ouest de l'Europe et en Italie. Le répertoire, ça veut dire qu'on joue ici 50 opéras différents chaque année, on joue 10 ballets différents et on joue 300 fois par an. Donc,
Presque tous les jours.
Chaque jour, il y a 3 différentes productions sur le plateau. À 7h, on démonte la production de la veille. À 10h, on répète le nouvel opéra. Et l'après-midi, on démonte le décor de la répétition.
Pour installer la représentation du soir.
Voilà, la représentation du soir. Donc évidemment, l'enjeu de ce système, c'est qu'on joue beaucoup, peut-être parfois au détriment de la qualité des répétitions. Donc mon premier travail, ça a été, au fond, de moderniser le système de répétition. On l'a fait de différents moyens, en allongeant la durée des répétitions pour les reprises, en favorisant les coproductions pour les nouvelles productions, de telle manière qu'on puisse économiser l'argent ainsi économisé pour retaper les productions existantes, en renégociant la convention.